VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est midi à la Gombe, à Kinshasa. Bonjour à tous. Le casque bleu de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, la MONUSCO, n'ont pas de mandat pour soutenir les armées voisines qui se préparent à neutraliser les groupes armés actifs dans cette zone, a indiqué aujourd'hui sa dirigeante Leila Zerougui. Notre mandat aujourd'hui, c'est de soutenir les FARDC, l'armée congolaise. On n'a pas de mandat pour soutenir les forces étrangères qui viennent en RDC. Notre mandat, c'est d'appuyer l'armée congolaise, a déclaré Mme Zerougui sur Radio Okapi. Les chefs des armées de la RDC, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie et de l'Ouganda se concertent depuis hier à Goma, dans le Nord Kivu, pour mutualiser leurs efforts afin de neutraliser des dizaines de groupes armés nationaux et étrangers présents dans l'Est congolais. La MONUSCO et AFRICOM, le commandement des États-Unis pour l'Afrique, participent comme invités et comme observateurs à ces travaux. Au Congo-Brazzaville, la rapporteuse spéciale des Nations Unies en mission dans le pays a déploré l'existence d'une discrimination contre les populations autochtones appelées pygmées. Ces derniers n'ont pas accès aux services sociaux de base comme la santé et l'éducation. Ils n'ont pas non plus droit à la terre pour cultiver. Victoria Dolly Corpus a demandé aux autorités congolaises de réparer cette injustice. Reportage de Arsène Servéen.
Malgré les explications des autorités, Daouli Corpus a mis en relief la discrimination dont sont victimes les peuples autochtones et ce dans tous les domaines. L'agriculture, la chasse, l'éducation, la santé, voire la participation à la vie publique. La rapporteuse spéciale des Nations Unies.
So I beg to disagree with the views presented that there is no discrimination in Congo. In my discussions with many ministers,
je ne suis pas d'accord pour dire que la discrimination et l'exclusion des peuples autochtones n'existent pas en République du Congo. Ils disent que les Bantous souffrent également d'un manque d'accès aux services sociaux de base. 8 ans après l'adoption de la loi 5 2011, l'analphabétisme reste largement répandu dans les communautés autochtones, y compris dans la Sangha, comme j'en ai été témoin direct.
Le gouvernement a adopté en juillet dernier 6 décrets d'application de la loi sur les peuples autochtones, mais cette loi elle-même n'est pas connue par les communautés. Daïlu Corpus.
So I think there's a really a very low awareness about the existence of the law.
J'ai constaté que la majorité des autochtones ne connaissent pas cette loi. J'en appelle donc au gouvernement de renforcer les capacités de ces peuples afin qu'ils comprennent cette loi, qu'elle soit traduite en différentes langues sur des supports audio ou vidéo.
Durant son séjour au Congo, la rapporteuse spéciale des Nations Unies a échangé avec les communautés des autochtones, tant à Brazzaville que dans les départements de la Sangha et de la Likwala. Jean Ganga, le coordonnateur du réseau national des peuples autochtones du Congo, confirme ce constat.
Donc, pour aller planter, il faut qu'on lui donne cet outil. Et celui qui donne cet outil, c'est le Bantou. Et quand elle plante, ce n'est plus son produit, c'est le produit des Bantous. Et il n'a pas droit à toucher à ça. Et la chasse, quand on a compté 4 cartouches, tu dois ramener 4 gibiers. S'il n'y a pas 4 gibiers, tu as ton compte. On a voté la loi, bien sûr, mais la pratique, elle est où?
Pour accompagner les autochtones dans les écoles, le programme alimentaire mondial a mis en place les cantines scolaires et ses enfants sont prioritaires, explique Jean-Martin Bauer, le représentant du PAM au Congo.
Il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais la cantine permet quand même de répondre à la problématique de la pauvreté. Donc en ce moment, nous appuyons une 60aine d'écoles ORA dans la Likwala et dans la Sangha. Nous avons dans ces deux régions-là environ entre 7 et 8 000 élèves qui sont bénéficiaires de la cantine scolaire, donc c'est un public cible de choix parce qu'il répond justement à la problématique de la pauvreté et de l'exclusion.
Le Congo est l'un des premiers pays africains à avoir adopté une loi sur les peuples autochtones, mais son application traîne à porter les fruits. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Merci Arsène. Le président sortant du Botswana, Modgwisi Masisi, a remporté aujourd'hui les élections générales dans son pays, malgré la fronde inédite de son prédécesseur qui menaçait le règne sans partage exercé par son parti sur le pays depuis un demi-siècle. Au terme de 2 jours de dépouillement, M. Masisi, 58 ans, a été proclamé élu pour un mandat de 5 ans dès la confirmation que son parti démocratique du Botswana, le BDP, avait obtenu la majorité absolue des 57 sièges du Parlement. M. Masisi dirigeait le pays depuis avril 2018. Un policier a été tué dans un bastion de l'opposition au Mozambique, a annoncé la police jeudi, au moment où ce pays attend les résultats des élections générales, entachées par des allégations de fraude. La période de comptage des bulletins de vote a été tendue depuis que le principal parti d'opposition, la RENAMO, a rejeté le scrutin du 15 octobre qui devrait être marqué par la victoire du président Philippe Nyusi et de son parti, le Frelimo. La police a accusé un groupe qui a fait sécession de la RENAMO d'avoir tué et brûlé un policier dans la région de Gorongosa, dans le centre du Mozambique. Le groupe sécessionniste de la RENAMO a démenti toute participation et a accusé la police de lancer de fausses accusations. L'administration Trump a invité le 6 novembre à Washington les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de l'Éthiopie et du Soudan pour discuter du grand barrage de la Renaissance éthiopienne sur le Nil Bleu, source d'une tension croissante entre Addis Abeba et le Caire, qui craint pour son propre approvisionnement en eau. La lettre d'invitation obtenue par la Voix de l'Amérique a été envoyée par le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, aux trois pays et à Davis. Et à David Malpass, le président de la Banque mondiale. De son côté, Moscou, selon l'agence de presse TASS, est prêt à offrir ses bons offices aux Égyptiens et aux Éthiopiens.
Nos infos sur voaafrique.com.
Le gouvernement et les séparatistes au Yémen ont conclu un accord parrainé par l'Arabie Saoudite sur le partage du pouvoir dans le sud pour mettre fin à leur conflit. La signature aura lieu plus tard le mardi 29 octobre en présence du président Abd Rabo Mansour Hadi et du chef du conseil de transition du sud, Haïdarus al-Zubaydi, a indiqué à l'AFP, une source au sein du gouvernement yéménite reconnue par la communauté internationale. L'accord annoncé aujourd'hui prévoit un retour à Aden du gouvernement du président en exil à Riyad. Le conflit dans le sud a aggravé la situation pour les civils dans un pays où la guerre a provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU. Washington s'est dit préoccupé jeudi soir par des informations selon lesquelles le père d'une militante pakistanaise réfugiée aux États-Unis vient lui-même d'être placé en détention dans un contexte de répression accrue de la dissidence au Pakistan. Gulelai Ismail, une militante des droits humains qui a fui en septembre aux États-Unis où elle a demandé l'asile, avait précédemment tweeté que son père avait été kidnappé jeudi à proximité de la haute cour de Peshawar, la capitale du nord-ouest pakistanais. Nous sommes préoccupés par des informations faisant état du harcèlement continu de la famille de Gulelai Ismail et de la détention de son père, a tweeté Alice Well, la secrétaire d'État adjointe pour l'Asie du Sud et de l'Asie centrale. Ici même, aux États-Unis, la sénatrice Elizabeth Warren est en tête de la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. Selon un nouveau sondage publié hier par l'Université Quinnipiac, elle a accentué son avance sur l'ancien vice-président Joe Biden. Le point avec Bagassi Koura.
L'élu de 70 amène une campagne résolument marquée à gauche. Elizabeth Warren est créditée de 28% d'intention de vote parmi les démocrates et leurs sympathisants. Elle devance Joe Biden, 76 ans, crédité de 21%. Selon ce sondage Quinnipiac, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, qui a été hospitalisé au début du mois après une crise cardiaque, est à 15% devant le maire de la petite ville de South Bend dans l'Indiana, Pete Buttigieg, qui a 10%, la sénatrice de Californie, Kamala Harris, avec 5%, devance sa rivale du Minnesota, Amy Klobuchar, avec 3%. Mais selon l'agrégateur de sondage Real Clear Politics, Joe Biden reste quand même en tête avec 27,2% au niveau national, devant Elizabeth Warren, 21,8%. Tim Ryan, élu de l'Ohio, a annoncé hier qu'il s'est retiré de la course. Les démocrates sont désormais 18 à se disputer la nomination pour affronter le président Donald Trump en novembre 2020.
Evo Morales a remporté l'élection présidentielle de dimanche en Bolivie à l'issue du premier tour du scrutin, selon les données publiées jeudi par le tribunal électoral suprême sur son site. Carlos Mesa, le principal candidat de l'opposition, a déclaré jeudi soir qu'il rejetait les résultats de l'élection présidentielle et a appelé ses partisans à continuer de manifester tant que les résultats officiels ne seraient pas publiés. Le président sortant est crédité de 47,07% des voix contre 36,51% pour Messa, disposant de 10 points d'avance nécessaires pour être élu dès le premier tour. Jean-Roger Billon à ce micro aux prochaines infos. C'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis. Bon week-end et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.